Vous êtes bien sur la radio éphémère, il est 17h, on fait le point sur l'actualité dans le département avec Maxime.
Bonjour à toutes et à tous. Alors que le conclave des partenaires sociaux sur les retraites doit s'achever ce mardi 17 juin, le Premier ministre François Bayrou propose une prime pour les salariés seniors qui décident de rester au travail. Comment les poneaux et les syndicats accueillent-ils cette proposition? Élément de réponse avec Lucas et Dorian.
Ah, c'est nul. Quand on a fait 64 ans de métier, ouais. On en a assez.
Super. Je travaille de toute façon, donc si j'ai une prime en plus, ça me va bien.
Les avis des poneaux sont très partagés.
Alors moi, j'ai 55 ans, j'ai pas une carrière complète, parce que moi, dans mon cas, par exemple, j'aurais pas une retraite très élevée. Donc, c'est une bonne idée.
On peut voir si c'est sur la base du volontarisme, ceux qui veulent, pourquoi pas.
Bien sûr, il y a des gens comme Bayrou, assis dans des bureaux. Ils peuvent rester 64 ans, même plus, parce qu'ils ne se fatiguent pas. Mais oui, la plupart, la majorité des gens, ils travaillent, ils ont un travail physique. Et à 64 ans, ils sont complètement usés.
Est-ce que les syndicats sont du même avis que les poneaux?
Aurélien Mingo, de la CGT Énergie de Haute-Loire, et Pierre Marsin, secrétaire général de la CGT de Haute-Loire.
C'est pas avec quelques annonces de ces dernières semaines pour essayer d'enfumer les dizaines de travailleurs qui souffrent le plus qu'on va pouvoir faire des progrès ou améliorer les conditions de retraite des uns et des autres.
La moitié des salariés du privé, à partir de 62 ans, ne sont plus en activité. Parce qu'à partir de 55 ans, d'ailleurs, les salariés sont licenciés ou sont en arrêt maladie, invalidité ou autre. C'est pas parce qu'on va donner une prime que d'un seul coup, les invalides, ils vont devenir, miraculeusement, des gens bien portants et qui vont pouvoir travailler jusqu'à 65, 66, 67 ans. Ou alors, ils seront contraints.
Une réunion de la dernière chance est prévue à l'Élysée le 23 juin.
Doit-on interdire les écrans pour les enfants de moins de 3 ans? C'est un sujet qui revient souvent dans l'actualité et encore tout récemment. Un reportage de Jules et Étienne.
Une proposition de loi à l'Assemblée visant à interdire formellement les écrans en moins de 3 ans, c'est l'idée qu'a eue Antoine Vermorel-Marquez, député des Républicains, le 2 mai 2024. Cette proposition revient au centre des débats avec la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, qui a annoncé vouloir mettre en vigueur très bientôt cette réforme. Qu'en pensent les jeunes parents? Que sont leurs avis sur le sujet? Nous sommes allés dans les aires de jeu du Puy pour leur poser la question.
Je suis pas sûr qu'il y ait la nécessité de l'imposer parce que ça va être compliqué à la faire respecter. Par contre, je comprends l'intérêt de pas d'écran avant 3 ans. Nous, il n'y a pas forcément d'écran avant 3 ans, donc sans loi, du coup, on l'applique un minimum. Du coup, j'en vois pas forcément l'intérêt puisqu'on le fait déjà.
Surtout dans les lieux publics, quoi. C'est pour la découverte et la recherche de soi. C'est peut-être mieux d'être dans la vie que sur des écrans.
Je suis tout à fait pour, tout à fait pour. La télé de temps en temps, une fois par semaine, je dirais. Mais supprimer tout ça, quand on voit l'agilité qu'ils ont, parce qu'ils voient faire, c'est dramatique. Mais moi, je vois un petit de 3 ans, il n'a rien à faire devant un écran.
Une loi très bien reçue par les Français, malgré des doutes sur la manière de l'appliquer. Nous sommes donc allés à la rencontre de Karine Béalsuc, directrice de crèche.
En tant que professionnelle petite enfance, auprès d'enfants de moins de 3 ans, justement, je trouve que c'est une proposition de loi qui est tout à fait adaptée parce que on voit, nous, en tant que professionnels, bien les conséquences des écrans chez l'enfant de moins de 3 ans, en particulier quand ce n'est pas accompagné. Tous les écrans ne se substituent pas à la présence de l'adulte.
Des retours plutôt positifs, mais qui témoignent du manque d'ambition de cette proposition de loi, qui n'apporte rien de nouveau dans l'éducation des plus jeunes et qui ne garantit pas une application réelle dans les familles.
Les épreuves du bac ont débuté ce lundi avec la traditionnelle épreuve de philosophie. Si cet examen demeure un rite de passage, le taux de réussite est passé de 87% en 2005 à 96% en 2024. Alors, ce mythique examen a-t-il changé au cours des 20 dernières années ? Immersion dans un lycée du Puy avec Lilian et Maëlys.
Certains stressés, d'autres non. Ces futurs bacheliers ont-ils toujours le même mérite à passer le bac? Ou celui-ci est-il dorénavant donné, comme le disent certains? La réponse de Madame Thomas, professeure de physique-chimie au lycée.
Je ne pense pas que les énoncés soient de plus en plus faciles au cours du temps. Bien au contraire, depuis la réforme du bac et la création du nouveau bac, entre guillemets, le contenu de l'année et le contenu et les attentes de l'épreuve du baccalauréat sont, à mon sens, supérieurs à ce que c'était auparavant.
Les taux d'obtention du bac ont explosé entre 1970 et 2024, passant de 16 à 96%. Les élèves d'un lycée, eux aussi bien conscients du fort taux d'obtention au bac, nuance également le fait que ce serait dû à une baisse de difficultés.
Je suis pas forcément stressé, mais je suis pas très très confiant non plus. Je pense que je vais l'avoir, mais ça va être limite, parce que maths physique, ça va, je pense que ça va pas mal me plomber. Enfin, contrôle continu, c'est sûr que ça nous aide beaucoup, mais après, je pense que les matières et tout ont évolué, donc après, le niveau, il augmente d'année en année, je pense.
Parce qu'avant, on était moins préparés, tout le monde n'avait pas autant d'accès pour travailler, ils avaient moins le temps pour travailler. Et je pense que, au vu des statistiques, maintenant, de plus en plus de personnes ont le bac. Donc, je pense que c'est un peu plus facile de l'avoir aujourd'hui. Après, les programmes sont assez différents.
Le taux d'obtention va-t-il encore augmenter cette année? La réponse le 4 juillet, au moment des résultats.
On termine ce journal en musique car on s'apprête à fêter l'été ce week-end. Nina et Abigail sont allées prendre la température pour voir comment s'organise en coulisses la fête de la musique au puits.
Au Puy-en-Velay, on célèbre chaque année la fête de la musique depuis 1982. Cette fête est organisée par la mairie du Puy, où nous nous sommes rendus pour en découvrir plus sur l'organisation. Isabelle Hichet, responsable communication à la mairie du Puy, nous annonce que cette année, le Puy accueille de nombreux artistes.
Donc du coup, la fête de la musique en ville, c'est une dizaine de sites sur la ville, plus 8-10 bars qui proposent aussi des animations musicales tout au long de la journée ou de la soirée.
Mais de quelle manière la ville s'organise pour garantir la sécurité des habitants?
Oui, alors du coup, il y a beaucoup de mesures qui sont prises, notamment pour les restrictions de circulation et de stationnement. Ça concerne surtout le centre, le cœur de ville, avec les rues, les rues pavées sur le quartier Pensac, Chaussade, etc. Et les informations sont à retrouver sur le site de la ville du Puy pour les personnes qui voudraient plus d'informations.
Comme le Puy est une ville très active culturellement, la ville a un budget.
Donc la ville consacre 500 000 euros par an environ pour les animations, mais c'est à l'année pour faire vivre, pour faire vivre la ville et proposer des animations aux ponos et aux visiteurs.
On se donne rendez-vous samedi pour célébrer la musique.
C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain bulletin d'information à 19h. En attendant, restez à l'écoute de nos programmes sur Radio FMR.